VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Les États-Unis se disent profondément déçus par la décision du président rwandais Paul Kagame de briguer un troisième mandat. Avec cette décision, le président Kagame rate une occasion historique de renforcer et consolider les institutions démocratiques que le peuple rwandais s'est échiné à bâtir depuis plus de 20 ans, a fait savoir le porte-parole du département d'État américain John Kirby dans un communiqué samedi. Nous sommes particulièrement préoccupés par les changements visant à favoriser un individu, a ajouté John Kirby. On a le gouvernement rwandais à respecter les droits des citoyens, la liberté d'expression, de conscience et de rassemblement pacifique. En RCA, les résultats partiels et provisoires de la présidentielle du 30 décembre dernier continuent de tomber au fur et à mesure qu'ils sont traités. À la date de ce dimanche, l'ANE, l'Autorité nationale des élections, n'a publié que 27% des résultats. On fait le point avec Freeman Simila, notre correspondant à Bangui.
Les derniers résultats partiels et provisoires d'hier soir donnent toujours en tête le candidat indépendant numéro 2, Faustin Archange Touadéra, qui a récolté 120 838 voix. Ancien Premier ministre de François Bozizé, Faustin Archange Touadéra est un gros outsider venu troubler les pronostics. Le candidat numéro 1 de l'URCA, Anissé Georges Doléguilé, garde toujours le second rang avec 68 547 voix. Deux fils d'anciens présidents, Désiré Zanga Bilal Kolimba et Jean-Serge Bokassa, occupent les 3e et 4e places avec respectivement 39 952 et 33 958 voix. Le candidat du MLPC, Martin Ziguele, considéré comme l'une des têtes d'affiche de ce scrutin, occupe pour le moment la 5e position avec 27 381 voix. Seulement 27% de ces résultats sont rendus publics par l'Autorité nationale des élections. Les résultats de certaines préfectures comme l'Ouham, Luampindi, la Waka, la Vakaga et la Basse-Kotto ne sont pas encore traités. Les autres résultats sont attendus ce lundi à 13h et 17h, heure de Bangui. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Tchad, après une analyse de la situation socio-économique que traverse le pays, l'Union des syndicats du Tchad, principale centrale syndicale des travailleurs du secteur public, est montée au créneau pour faire des propositions pour une sortie de crise. Propositions contenues dans un mémorandum publié en ce début d'année. Plus de détails avec notre correspondant N'Djamena, André Kodmajingar.
Ce document de 23 pages fait suite aux propos contradictoires du président tchadien sur la situation socio-économique du pays. Le 18 décembre 2015, Idriss Déby Itno a déclaré que tous les chantiers arrêtés à cause de la conjoncture financière seront relancés en 2016. C'est une opportunité d'emploi pour les jeunes, dit-il, qui broient du noir. Le 30 décembre 2015, soit 2 semaines après cette sortie médiatique pleine d'espoir, Idriss Déby Itno recule. Il demande à son gouvernement de geler l'intégration de jeunes diplômés à la fonction publique pour 3 ans. Dans son adresse à la Nation le 31 décembre 2015, il attire l'attention de ses concitoyens en ces termes.
L'année 2016 sera encore difficile. L'insécurité qui s'est installée dans la sous-région va continuer à entraîner dans son siège des perturbations quant à nos échanges commerciaux avec les pays voisins, en particulier le Cameroun, le Nigeria et la Libye, avec pour conséquence directe la hausse des prix des denrées de base et le dérèglement généralisé de notre économie. Les perspectives pour la hausse du prix du pétrole restent faibles et nous devons nous préparer à cela. J'invite fortement le gouvernement à accélérer la diversification de l'économie, notamment la promotion de l'agriculture et de l'élevage, et attirer des investissements privés pour créer d'emplois en faveur des jeunes et transformer ainsi notre économie.
Pour décrisper cette crise sociale, l'Union des syndicats du Tchad UST exige du gouvernement un audit exhaustif sur la gestion de la douane et du trésor public depuis la nomination de son frère cadet Salah Déby Itno à la tête de cette institution jusqu'au jour de son départ et le ramener devant la justice tchadienne. La dissolution de la direction générale des grands travaux présidentiels qui constitue selon l'UST une source officielle de détournement de deniers publics. La nomination à la tête de régie financière des cadres compétents sans considération familiale et politique. Le document précise par ailleurs que les travailleurs n'entendent plus voir leurs conditions de vie et de travail se dégrader et leur pouvoir d'achat, déjà précaire, continue à baisser. Ils ne sont pas prêts non plus à payer le prix de la mauvaise gouvernance et rejettent la politique de deux poids, deux mesures qui se caractérise par l'impunité pour les uns et la rigueur pour les autres. Ils décident enfin de s'opposer désormais aux nominations qui qui ne respecteraient pas les critères. André Kodumadjingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Cap maintenant sur l'Afrique de l'Ouest. Présidentielle du 21 février au Niger, 16 dossiers de candidature ont été réceptionnés par le ministère de l'Intérieur à la date limite de dépôt samedi. Le ministère doit maintenant les transmettre à la Cour constitutionnelle pour validation. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Ils sont presque tous connus, à quelques exceptions près. Issoufou Mahamadou, le président sortant, Seni Oumarou, qu'il a battu au second tour en 2011 à Mahamadou, en prison dans le cadre de l'affaire du trafic de bébés, tout comme Abdoulabo de la CDS Rahama. L'ancien président de la République, Maman Ousmane, parrainé par une autre formation politique outre que son CDS traditionnel, et Amadou Bakar Sissé, ministre jusqu'en septembre 2015, sont les plus connus et seront probablement les plus cotés par les électeurs. Quelques jeunes feront aussi parler d'eux. Il s'agit de Ibrahim Yacouba, directeur de cabinet adjoint du président de la République, et Maman Kassou Mokhtar, ancien maire de la capitale économique Maradi. Les dossiers seront transmis à la Cour constitutionnelle qui doit statuer avant le 9 janvier pour validation. Dans l'entretemps, le rapport d'audit du fichier électoral commandité par la Commission électorale nationale indépendante auprès de l'OIF sera aussi disponible. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Autre élection prévue en février en Afrique, les présidentielles aux Comores. 25 candidats sur 28 postulants ont été retenus pour participer à ce scrutin. C'est ce qu'a confirmé la Cour constitutionnelle dans un arrêt rendu samedi. Les Comoriens de l'étranger, dont environ 300 000 vivent en France, ne pourront finalement pas voter, contrairement à ce qui avait été annoncé par le ministère de l'Intérieur il y a 6 mois. Le premier tour des élections est prévu le 21 février. Seuls les 3 candidats arrivés en tête participeront au second tour le 18 avril. L'actualité hors d'Afrique maintenant. L'Arabie Saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran après l'attaque de son ambassade à Téhéran et la violente réaction iranienne à l'exécution d'un dignitaire religieux chiite saoudien par Riyad. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Lors d'une conférence de presse à Riyad, le chef de la diplomatie saoudienne a dit que son pays exigeait le départ sous 48 heures des membres de la représentation diplomatique iranienne. Adel Al-Jubeir a dénoncé, et je cite, « les ingérences négatives et agressives de l'Iran dans les affaires arabes ». Les attaques par des manifestants de l'ambassade saoudienne à Téhéran et du consulat saoudien à Machad constitue, selon le ministre, une violation flagrante de toutes les conventions internationales. Adel Al-Jubeir a accusé les autorités iraniennes de n'avoir rien fait pour les empêcher. Les relations déjà mauvaises entre l'Iran et l'Arabie saoudite se sont nettement dégradées suite à l'exécution samedi en Arabie saoudite du cheikh chiite saoudien Nimir Bakr el-Nimir, un critique virulent du gouvernement de Riyad. L'ONU, les États-Unis et l'Union européenne ont dit craindre que cette exécution n'enflamme davantage les tensions entre les communautés chiites et sunnites.
Au Yémen, un couvre-feu nocturne a été décrété à partir de ce lundi à Aden, deuxième ville du pays. L'annonce fait suite à de violents combats dimanche dans un des ports d'Aden, Al-Mouala. Des combats qui ont fait 17 morts, 9 membres des forces de sécurité dont un colonel et 8 assaillants, selon des sources sécuritaires. Depuis mars, la guerre au Yémen a fait quelque 6 000 morts, 28 000 blessés et 2,5 millions de déplacés. 5 kamikazes du groupe État islamique ont attaqué dimanche une base militaire irakienne au nord de Bagdad, tuant au moins 12 membres des forces de sécurité. Ils ont également blessé 20 autres, selon des autorités. 2 des kamikazes ont fait exploser leur explosif sur des véhicules à la porte ouest du camp Spasher, une ancienne base américaine près de la ville sunnite de Tikrit. Les 3 autres se sont fait exploser à l'intérieur d'un centre de formation de la police irakienne. Ces attentats ont été revendiqué par le groupe État islamique. Et pour terminer, un an après, l'assassin court toujours. C'est le titre du numéro spécial de Charlie Hebdo qui paraît ce mercredi. Pour le premier anniversaire de l'attentat djihadiste qui avait décimé son équipe, l'hebdomadaire satirique français met en une un dieu barbu armé d'une kalachnikov et à l'habit ensanglanté. Selon l'AFP, ce numéro devrait être tiré à environ 1 million d'exemplaires, dont des dizaines de milliers expédiés à l'étranger. Rappelons que 12 personnes avaient perdu la vie dans l'attaque par des djihadistes de l'hebdomadaire à l'irrévérence assumée envers les religions. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.